Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai l'infime honneur de pouvoir échanger avec Robert Grégoire, qui a un parcours plus qu'inspirant, mais je vous laisse le découvrir maintenant. Donc, tu étais en train de me donner ton numéro d'assurance sociale. Donc, tu peux le répéter pour nos auditeurs et moi-même.
Ah, mais tu as tellement raison, Ziad, parce que toute la question de l'information et de la vie privée, c'est tellement important aujourd'hui. Puis, bien sûr, le numéro d'assurance sociale, c'est la clé à ton identité citoyenne, ton identité aussi d'impôt. Alors, c'est une chose que tu ne peux certainement pas donner. Mais moi, je m'occupe de cybersécurité avec le cadre 21. Puis, je suis toujours attentif à ça. Et malgré ça,
Oui.
je me suis fait encore prendre récemment. À un moment donné, tu as un instant c'est une question de circonstance, un moment de distraction. Tu penses que quelque chose est légitime, surtout quand c'est présenté sur ton téléphone cellulaire. Hein. Le
Oui.
téléphone cellulaire, pour moi, il enlève l'adresse courriel, il enlève un paquet de contexte. Puis là, tu penses que, ah, Belle est en train de m'écrire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ben là, boum, et voilà, et je suis en train de. Alors, tu es en train de donner ton information à tout le monde.
En tout cas, c'est une merveilleuse entrée en matière, puis c'est ce qui me fascine à chaque fois, c'est je lance quelque chose, et des fois ça nous mène dans des endroits, donc c'est parfait. Mais commençons par le commencement. Un grand merci Robert d'avoir embarqué dans cette aventure, de t'être sorti de comment appeler ça? J'aime pas le terme retraite, mais d'avoir quitté ta vallée de plénitude pour rejoindre le terrain vague dans lequel nous on est encore. Donc, un grand merci d'être parmi nous, mais commençons par le commencement. Robert, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Wow, ouais, mais c'est une question un peu longue à déballer. Par contre, je suis un gars comme beaucoup de jeunes garçons qui se disent, qu'est-ce que je devrais faire dans la vie? Et puis, mon père était médecin, j'ai eu une superbe éducation. Regarde, c'est la clé finalement à plusieurs réussites, à plusieurs compréhensions, la maîtrise du langage écrit, etc., qui m'ont servi beaucoup, beaucoup d'atouts. Mais au-delà de ça, quand on est jeune, on cherche, puis qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, souvent, on veut faire ce que nos parents attendent de nous, de ce que notre père fait. Dieu merci, je ne me suis pas dirigé dans cette voie-là parce que j'aurais pas été un bon médecin, j'aurais été là pour les mauvaises raisons. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est bizarre parce que la question prend tellement de temps à maîtriser. Je regarde mon garçon aller, il a 24 ans maintenant, puis il vient de finir tout un bac, et puis il a décidé que ce n'est pas ça qu'il veut faire dans la vie. C'est difficile de savoir où est-ce qu'on veut en venir. Puis moi, ma première carrière, ma première, mon j'ai étudié en éducation physique, mais je n'ai jamais voulu enseigner l'éducation physique. Ma copine à l'époque m'a dit, ah, tu devrais coacher en ski, Robert, tu serais bon, puis tu avais énormément de succès. Ça m'a mené avec l'équipe nationale canadienne, ça m'a mené
Wow.
avec la Fédération canadienne des entraîneurs de ski, ça m'a mené au Nouveau-Brunswick en 1990, ça m'a mené à rencontrer l'Acadienne de mon cœur, avec qui je suis toujours et avec qui j'ai fondé une famille. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, quand on a quitté Fredericton, ma blonde et moi, parce qu'elle voulait suivre une autre voie, je me suis cherché. Et puis, j'ai vraiment trouvé, ça a été le coup de cœur. Tu sais, quand tu cherches puis tu trouves pas, là, puis tu sais, t'arrives au plus profond, là, puis tu dis, c'est pas ça, puis ça va pas bien, puis t'es complètement débalancé. Puis à un moment donné, tu rencontres quelque chose et bang, tu sais que c'est ça. Mais moi, j'ai su que c'était ça quand j'ai rencontré le groupe des technologies de l'apprentissage à l'Université de Moncton qui me proposait un poste de gestionnaire de projet. Ben, en fait, avant ça, j'ai rencontré une formation pour la technopédagogie, puis j'ai suivi un cours d'un an. Je suis retourné à l'école à l'âge de 35 ans, quelque chose de même, parce que je voulais faire une réorientation, mais ça m'amenait vers quelque chose que instinctivement, je trouvais très porteuse, puis en même temps, je n'étais pas préparé à ça, pas du tout. C'est-à-dire, en 1995-97, ça reste que l'Internet commençait, on n'avait pas tant d'ordinateurs que ça. Ça faisait quand même 10 ans que j'étais sur un ordinateur. Mais de comprendre où est-ce que ça allait nous mener, cette affaire-là, puis de maîtriser tout le langage des technologies, d'être plongé dans ce milieu-là à l'Université de Moncton, ça a été pour moi la clé de voûte de ma véritable carrière. Entraîneur de ski, j'ai fait ça quand j'étais jeune, quand tu n'es pas prêt à arrêter. Mais quand j'ai commencé à faire des choses, je suis tombé dans ce milieu-là. Puis c'est un milieu que j'ai adoré parce que je travaillais avec des gens, non seulement des programmeurs qui maîtrisaient un langage qui était différent, mais aussi toute une équipe médiatique qui maîtrise le média qui vient renforcer, alimenter, augmenter le discours. Et puis ça, c'était la plus belle chose au monde, de travailler en équipe pour créer un projet qui allait permettre à un individu d'apprendre à travers une expérience en ligne. Wow, c'était tout un monde. Et puis là, ben c'est ça, pour quelqu'un qui n'aime pas la routine, qui n'aime pas le quotidien répété, de toujours réinventer le monde avec des projets comme ça, avec pour l'enseignement, pour moi, ça a été une révélation. J'ai toujours aimé faire ce que je faisais. Et puis, j'ajouterais que j'ai rencontré des gens extraordinaires ce faisant, des gens allumés, des gens curieux, des gens passionnés. Voilà.
Waouh! Je dis waouh! Ce qui est merveilleux, c'est que tu as fait une introduction qui explique, vous savez pourquoi je voulais l'inviter, puis je vais dire enregistrer cette petite capsule. Pour mettre un peu de contexte, c'est ça, nous on s'est rencontrés je vais dire, il y a récemment, il y a quand même un peu plus d'une année, dans le cadre du REFAD où j'ai donné une intervention. Puis ce qui m'avait fasciné, puis que j'avais pas réussi à trouver le bon mot, mais il y avait effectivement quelque chose qui pétillait en toi, parce qu'on se connaît pas depuis 150 ans, même si je fais toujours la joke, mais vraiment lors de nos échanges, il y avait vraiment quelque chose qui était comme habité, puis tu as mis le doigt sur quelque chose qui nous explique d'où ça vient. Tu sais, c'est un peu comme un enfant curieux, c'est quelque chose qui... Puis je me suis dit justement à la fin, il faut que je garde contact avec. Et toi, Robert, tu es parti en retraite, donc j'ai mis un peu plus de temps à te retrouver, mais j'ai réussi, donc je suis très content. Un grand merci à toi d'avoir daigné rejeter un coup d'œil sur tes réseaux sociaux. Installer
Ben,
au
c'est un
milieu.
privilège, hein. Moi, c'est moi qui te remercie vraiment.
Oh, wow! On va aller dans l'ordre. Moi, je trouve ça génial de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a évolué dans le domaine du ski alpin. Pourquoi le ski? Parce que d'habitude, je veux dire, on reste au Québec slash Canada, les Rocheuses sont un peu loin. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le ski? Je dis, moi, en tant que Suisse, nous, je dirais, on a pas, comme pas le choix. Je dis, 2, 3 ans, on te mène sur une paire de ski, on te pousse en avant, puis tu descends, quoi. Mais ici, c'est beaucoup plus rare. Donc, est-ce que tu es tombé en amour? C'est l'influence des proches?
C'est vraiment une question de dynamique familiale, hein. Chez nous, on était 5 garçons, puis toutes les fins de semaine, ma mère partait avec la grosse boîte Tupperware, là. Tupperware, à l'époque, c'était les contenants scellés qu'on vendait là, à la porte, là, puis on sonnait comme les produits avant, là, puis on vendait ça. Puis ma mère, elle en avait un immense, là. Elle faisait des sandwichs pour les 7 là-dedans, puis on partait en ski, puis on s'assoyait tous les midis ensemble, puis... J'ai suivi des cours de ski, j'ai skié, puis tout ça dans la région. Québec, écoute, à l'époque, c'était un domaine très froid. Ça a beaucoup changé, mais il fallait vivre avec la neige, avec l'hiver. Et puis, c'était un privilège de pouvoir jouer dans la neige, d'être à l'extérieur tout le temps. Je me souviens, ma mère était tout le temps un petit peu rebelle. Elle venait me chercher à l'école, puis elle disait au directeur, elle dit, je vais chercher mon garçon, là, je l'amène skier, il fait trop beau aujourd'hui. Puis elle me sortait du séminaire de Québec. C'était génial, puis ça faisait partie de notre ADN. On faisait en famille, on partait en voyage de pêche en canot, tout le monde dans le nord. On était très, très proche de la nature. De là, mes inquiétudes pour le climat, pour la biodiversité, pour la planète en ce moment. Mais tout ça faisait partie de notre façon de vivre. Et puis après avoir skié pour m'amuser, skié à prendre des cours de ski, je suis devenu moniteur de ski à Stoneham où je skiais. Et puis, durant mes études à l'Université de Sherbrooke, ben là, je me demandais comment j'allais faire de l'argent parce que j'avais besoin d'un petit revenu. Et puis, j'ai eu la chance d'être embauché comme entraîneur-chef pour un club local. Et puis là, tu sais, comme c'était un bon mariage parce que j'étudiais en éducation physique, et puis le fait de coacher des jeunes à AOZ, qui est une montagne extraordinaire, un volcan à côté d'un autre volcan, à côté de 2 autres volcans, Killington, Orford, des vieux, vieux volcans, on s'entend. C'était une région extraordinaire, plongée dans cette vie de famille-là aussi, avec toutes les... les familles qui appartenaient au club, les jeunes. J'ai eu beaucoup, beaucoup de succès comme entraîneur. Ça m'a amené à travailler pour la Fédération des entraîneurs de ski du Canada. Ça m'a amené dans les Rocheuses. Ça m'a amené en Europe. C'était un privilège extraordinaire que de ben, payer pour faire quelque chose que j'adorais. Et puis, en plus de ça, on avait tellement de plaisir avec les jeunes. À un moment donné, je me souviens, il y avait une compétition à Thetford Mines et puis j'ai dit non, moi, j'étais entraîneur-chef à RLZ. Je peux pas y aller, j'ai du travail, je vais rester ici, mais j'ai envoyé mon groupe d'élite, là, j'ai envoyé tous mes jeunes skier là. Et puis, les parents m'ont rappelé dimanche soir, Robert, on a gagné les 3 médailles, 11 argent, bronze. Et puis, ça a été comme un peu parce que je faisais à ce moment-là du bon travail à RLZ et puis ça m'a amené à être en vue avec la Fédération québécoise de ski. Bon, ça l'a amené à cette carrière-là. J'ai continué. J'ai continué quand on m'a offert le poste de directeur des stages pour l'Est du Canada. Et puis, ça a été la fin de ma carrière de ski. Après ça, je suis devenu un gestionnaire de ski pour le Nouveau-Brunswick. Mais quand même, ça a été 15 ans, 15 années de plaisir dans la nature, apprendre à apprivoiser le froid, puis toujours à jouer avec. Quelque chose qui est toujours resté avec moi, c'est le plaisir, les sensations, le risque, l'adrénaline. Ça fait partie de mon ADN aussi.
Waouh, j'ai le goût de dire merci maman. Non, merci à ta maman surtout, c'est assez dingue.
Oui.
Est-ce que t'as... Enfin, là, je suis en train de réfléchir, et comme je le dis à chaque fois, il y a 700 IA dans ma tête qui se battent pour deux manettes et un micro, ce qui fait que des fois ça bug. Tu viens d'ouvrir plein de portes, puis j'ai le goût d'en visiter quelques-unes. Moi, je trouve la démarche de ta maman géniale. Comme on dit, c'est... Surtout en plus à une époque qu'on stéréotype beaucoup, tu sais, en disant que c'était très austère, très carré, etc., d'avoir comme cet esprit libre, ce côté un peu rebelle. Est-ce que tu l'as reproduit avec tes enfants? Est-ce que toi aussi t'allais les chercher pour repartir à l'aventure?
Sais-tu quoi, on ne peut pas s'en empêcher. Hein? On est comme on est, puis on joue le rôle de modèle pour nos enfants, puis on les élève avec les valeurs qu'on avait. On a essayé le ski alpin, puis pour moi, ça n'a pas été un copier-coller. Hein? On a fait deux, 3 années de ski alpin, de classe. Les enfants ont appris à skier, on prenait nos vacances en ski, mais Nouveau-Brunswick, c'est pas le Québec, hein, puis les montagnes, c'est pas le Mont-Tremblant ici. Donc, à un moment donné, ça s'est tanné, mais on a continué, puis écoute, ma plus grande fierté, c'est que mes deux enfants, en ce moment, tu sais que souvent, on a ces discussions-là à la maison, où est-ce que mon épouse dit, mais comment ça se fait que nos enfants sont pas branchés, n'ont pas une carrière, leurs amis sont déjà rendus avocats, médecins, nanana, nanana, et puis les nôtres, ils se cherchent, ils vivent dans la pauvreté, gna, gna, gna. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de donner des bonnes valeurs. Et puis, je suis content de voir que mes enfants peuvent se retourner. Ma fille a toujours nagé compétitivement. Mon garçon vient de lâcher le rouge et or au badminton à Laval.
Wow.
Dans les deux cas, ils sont des athlètes. Ils s'entraînent. Pour moi, le fait de rester physiquement actif, le fait de rester connecté à ton corps, d'être en santé et de connaître son corps, ses limites, c'est tellement important pour l'avenir. Ça te permet d'être plus productif au travail, ça te permet d'être plus de bonne humeur. Tu sais, tu disais tantôt, tu me trouvais pétillant, tu me trouvais
Oui.
c'est comme dynamique.
Oui.
Ben, c'est peut-être le fait que j'aime faire de l'activité physique, puis je maintiens ça. Même à 64 ans, je continue ma routine en me souvenant des bons vieux jours, mais il faut dire. Donc, ça, c'est important. J'ai élevé mes enfants de même. Je les ai élevés aussi. Puis là, pour moi, c'est vraiment important de parler de ça parce que je trouve ça tellement fun. Ziad, je te remercie de m'en donner la chance. Mais parmi mes plus belles réussites dans la vie, puis parmi les choses les plus importantes que j'ai jamais faites, ma fille avait 8 ans, mon garçon avait 5 ans. Et puis, Harry Potter est rentré dans nos vies. Et puis là, Harry Potter, c'est pas moi qui l'ai lu, mais j'entendais parler de Harry Potter. Alors, j'ai dit, on va commencer à lire ça, Gabriel. Alors, on s'installait tous les soirs, on allait se coucher. On se couchait dans le lit, se couchait à côté de moi. Et puis, elle avait 8 ans. Et puis, on a commencé à lire tout le premier livre de Harry Potter ensemble. Mais à ce moment-là, c'est moi, j'étais couché et je lisais à voix haute. Elle était à côté de moi, elle voyait le livre. Puis, Elle ne voyait pas le livre, elle regardait le plafond, elle écoutait, alors elle voyageait dans son monde de son esprit. Et puis, quand on a eu fini de lire le premier, le deuxième, le troisième avec ma fille, mon garçon était rendu assez vieux, c'était 3 ans plus tard. Alors, on a recommencé, il n'y avait pas d'autre livre de sortie. Alors, on a recommencé à lire le premier, mais là, on était deux enfants. Et ces moments-là, le soir, avec les enfants, ça menait à tellement plus que la lecture de Harry Potter. Ça menait à des échanges, à des questions. C'était vraiment de l'éducation. Je leur disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Qu'est-ce qui va se passer, pensez-vous? Qu'est-ce qu'il va faire, pensez-vous? Mais pourquoi ça? Ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis pourquoi? Avez-vous vu comment on l'appelle? Et puis, je me suis rendu compte tranquillement que pendant que je lisais, les enfants lisaient avec moi. Et puis, ils apprenaient à lire. Et ça, là, ça a été extraordinaire. Je veux dire, ils n'avaient pas besoin de moi pour faire ça, mais en même temps, j'ai facilité ça. On était au moins 5 ans plus tard en voyage. On s'en allait aux États-Unis. Les enfants, debout sur une table de pique-nique avec des baguettes magiques, faisaient des duels de baguettes magiques. Ils lisaient eux-mêmes les livres, ils les relisaient. Ils ont toutes les deux la collection. Mon garçon a lu ce livre-là au moins 8 fois. Je dis au moins, là, parce qu'il retombe dedans, il adore ça. Ils lisent pas autant qu'ils devraient lire, mais quand même, je pense que pour moi, la lecture, le livre, c'est un monde essentiel, là.
Ah, écoute, un grand merci à toi pour ce partage. C'est plus qu'inspirant. C'est ça. Ça évoque plein de choses, ça rappelle plein de choses. Donc, un grand merci pour cette Madeleine de Proust. Tu viens de... Plusieurs fois, tu as souligné ton rapport à... J'irais au-delà de l'écriture, tu sais, à la langue, au sens des mots, au vocabulaire. Est-ce que je me trompe ou j'ai vraiment l'impression que tu es un amoureux de la langue ou du langage écrit, où il y a vraiment quelque chose qui...
T'as tout à fait raison. Ça a été ma première accroche avec les technologies. Ça a été le fait de pouvoir partager les textes. Et je me suis retrouvé à écrire beaucoup pour échanger avec des gens, puis à trouver ce canal de communication privilégié. Tu sais, quand tu écris à quelqu'un, ton rapport n'est pas le même que quand tu lui parles. Et la relation qui s'installe entre les deux personnes, elle est privilégiée de qu'est-ce qu'on s'écrit. Et puis, ça l'a toujours habité ma vie. Puis le fait que je lise, j'ai été chanceux d'être capable de maîtriser mon français. Je l'écris très bien. Je le parle comme je le parle, mais je le maîtrise vraiment bien. Puis je me rends compte que ce n'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, il y a du monde que tu vas leur expliquer les participes passés puis les accords de participes passés aussi souvent que tu veux et ça rentre juste pas. Puis ça dépend des gens, puis ça dépend de leur style, puis ça dépend de toutes sortes de choses, comment est-ce que ton cerveau est fait. Mais moi, ça rentrait, puis tu as raison. Pour moi, ça a été la force de toute ma carrière d'être capable de finalement ancrer tout ce que je fais autour de textes bien écrits qui aidaient beaucoup à l'éducation. Puis pour moi, ça a été un atout, une expertise importante là, dans mes compétences, là. Puis on m'a dit par la suite que mes communications sont assez bonnes. Donc, c'est ça, là.
J'apprécie la modestie, assez bonne.
Mais écoute, j'adore les livres, puis je lis beaucoup moins que je lisais. Je lis trop de nouvelles, mais je suis un passionné de nouvelles. Ça c'est l'autre chose, tu sais. Les gens arrivent à la retraite, puis il y en a qui décident que là, c'est le temps de mourir. Ils n'ont pas pris leur retraite depuis 6 mois que le décès les rattrape. Il y en a d'autres qui disent, ben, je m'ennuie, puis ils recommencent à travailler. Moi, excusez, là, mais moi, j'ai attendu ça toute ma vie, là, genre, commence à jouer, je fais de l'exercice aussi longtemps que je veux, je lis mon journal, en fait ma tablette le matin, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment que tu consommes les médias, puis je ne suis pas sûr que la consommation entre la télévision puis le mot écrit, la parole écrite est la même. C'est des choses vraiment différentes, puis je pense aussi que l'absorption, la compréhension, puis la rétention sont complètement différents à partir du moment que tu lis. Moi, je continue de lire mon journal tous les matins et Ça l'amène dans mon salon, les enjeux du monde. Écoute, quand j'étais jeune et pensionnaire au séminaire de Québec, je sortais des livres de la bibliothèque, puis je lisais des affaires. Je me souviens que je lisais des affaires là, sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était pas nécessairement des livres qui étaient recommandés, là. C'est les troupes les troupes disciplinaires de Hitler. Alors, on parlait de toutes les prisonniers de droit commun qui étaient enrôlés de force et qui étaient donnés les pires jobs, les bataillons disciplinaires. Et puis là, le gars qui écrivait ça, il racontait ça avec force de tuerie et visite au bordel, excusez mon langage, il faudra couper ça au montage,
Non, non, on va
etc.
garder. On est entre adultes.
Mais en même temps, tu sais, Ziad,
Ouais.
quand la Russie envahit l'Ukraine, il y a un an, il y a plus d'un an de
Oui.
ça maintenant, je me suis dit, waouh, depuis que je lisais ça quand j'étais jeune, maintenant on est à l'ère d'Internet et tout le monde est aux premières lignes. Tout le monde voit qu'est-ce qui se passe en temps réel. Tu es là et tu assistes aux mensonges de l'un comme de l'autre et tu vois tout et tu retiens ce que tu veux. Tu choisis le camp que tu veux, mais tu es là et tu le vis. Et ça, c'est quelque chose de. En tout cas, c'est le mot, c'est pas magique, mais j'arrive pas à dire encore c'est quoi. Mais c'est extraordinaire et le fait de pouvoir lire les nouvelles comme ça, et puis là, je vais parler de la guerre parce que c'est le
Oui.
sujet prioritaire, mais je lis sur tout et ça m'amène à comprendre le monde, à comprendre les grands enjeux et à vouloir depuis toujours m'impliquer dans la gouvernance. On se demande toujours pourquoi est-ce que les gouvernements n'agissent pas comme ça, puis pourquoi qu'ils font pas ci, puis bon, il s'agit de travailler au gouvernement pour voir comment est-ce qu'ils sont paralysés. Ils sont pris avec toutes sortes de processus, puis on avance à la vitesse qu'on avance. Mais en attendant, c'est important, je pense, de participer à la vie, à notre démocratie, puis à nos sociétés telles qu'elles sont, parce que c'est important de voir qu'on est moi en premier, notre société en second, tous les Canadiens ensuite. Privilégié, plus que privilégié au monde, sur la planète, pour tout plein
Oui.
de raisons. Et tous les jours de ma retraite et tous les jours de mon existence, j'en bénis le ciel.
Oui, là je ne peux qu'abonder dans ton sens. C'est un truc que je répète souvent aux gens qui ne réalisent pas à quel point on vit bien. On a plein de problématiques, plein de réalités, mais comparé à une très grande majorité des autres pays ou des autres réalités, nous, ça va. On s'invente plus des problèmes qu'on en a réellement. Je trouve extrêmement intéressant ce que tu as amené, puis c'est beau parce que tu as comme vécu la transition numérique ou l'avènement du numérique. C'est ça, c'est au début, tu allais à la bibliothèque pour avoir un peu d'informations. Aujourd'hui, tu peux, grâce à ta tablette ou n'importe quel device en bon français, accéder aux nouvelles et à du contenu de partout de la planète. Et comme tu l'as dit, tu n'as même pas besoin de comprendre le russe ou l'ukrainien pour pouvoir lire la presse locale qui peut être traduite, adaptée. Puis en plus, si tu ne comprends pas le sens du mot, parce que qu'on passe quand même d'une langue cyrillique et une langue latine, tu as des aides qui peuvent t'expliquer les nuances, etc. Donc tu es capable de trouver une multitude de choses. Comment t'as dealé avec ça? Parce que pour toi, ça a dû être la caverne d'Ali Baba. Je vais dire, cette fenêtre sur le monde.
Tu veux dire au début ou
Oui, au début, le fait de commencer à réaliser que grâce à l'Internet, en fait, tu pouvais avoir accès à plein de nouvelles de partout dans le monde, à toi qui aimes
ben,
lire.
en toute honnêteté, ça a
Oui.
été très, très graduel. Ça a été une transition en 89. J'avais mon premier ordinateur, un petit Macintosh avec la fenêtre en haut, là, une petite boîte, c'était bien
Oui.
patente. Et puis, je pense qu'il y avait 4 mégabits de mémoire vive, c'était ridicule. Mais écoute, ça a été très, très progressif. Pour moi, ça a pas été un choc d'apprendre les technologies. Je pense que ce qui est le choc, c'est de voir de nos jours à quel point les gens ne comprennent pas la technologie. Ça, tu sais, une de mes préoccupations, c'est le fossé technologique. Tu
Oui.
sais, comme les privilégiés, les bien nantis, ceux dont l'esprit les aide à mieux comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, vont voir en dessous, tu sais, puis juste comprendre le fait que je suis reconnu par mon identifiant, puis mon identifiant, il est unique, c'est juste ça, puis c'est un concept de base de données, ça. Mais comment est-ce que fonctionnent les technologies, c'est autre chose. Puis les gens s'en rendent pas vraiment compte. Moi, au premier chef, je veux dire, dans le temps de ma carrière, j'ai fait des erreurs à penser que certaines choses n'étaient pas comme telles. Mais en arrière, côté codeur, qui n'est pas mon background, pas du tout, il y a là tout un monde insoupçonné d'outils et d'accès. Qui est important à connaître. Et puis, finalement, la compétence numérique, ce virage-là au
Oui.
Québec, était un coup de leadership extraordinaire. Parce que pour avoir travaillé dans le monde de l'éducation, avec des gens ordinaires, entre guillemets, mais qui sont des enseignants, tu sais qu'à travers ça, ben, tu as une reproduction de ta population habituelle, ou est-ce que tu en as peut-être 80% qui ne maîtrisent pas vraiment bien les technologies.
Oui.
Là, mes chiffres sont tout à fait aléatoires, là. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui, non seulement les maîtrise pas, mais n'aime pas ça, puis vont pas là-dedans. Il y a tout un nouveau langage à apprendre, et sans ça, on est mal pris. Et le problème avec les technologies, c'est que, un, tu as besoin d'être relativement aisé pour te payer la
Oui.
bébelle qui coûte cher, très cher encore. Deux, tu as besoin de savoir comment l'utiliser. Trois, tu as besoin d'être dans un environnement qui va te conduire à aller plus loin avec ça. Et c'est ça que j'ai aimé de ce que j'ai fait toute ma vie, de pouvoir travailler dans ce domaine-là qui était en essor. Alors, comment est-ce que j'ai appris ça? Je ne l'ai pas vraiment appris, ça n'a pas été difficile parce que j'ai vécu finalement cette explosion-là, puis j'ai
Oui.
évolué avec le développement-là.
C'est extrêmement intéressant ce que tu nous amènes là, parce que ça résonne en moi. D'habitude, la question facile, c'est... Enfin, question facile, rien n'est facile dans le... Mais qui suit, c'est dire, est-ce que toi, en tant qu'expert qui a passé des années dans le système scolaire, tu penses que c'est de la responsabilité des écoles de se former sur ces nouveaux outils, ces nouvelles logiques, ou au contraire, c'est une responsabilité personnelle, un peu comme à l'époque des voitures mécaniques où tu apprenais à la maison comment fonctionnait un moteur, puis tu savais changer une roue, etc. Puis un peu plus tard, on a commencé à nous dire, ouais, mais non, en fait, faut apprendre ça à l'auto-école ou avant d'avoir le permis, etc., etc. Mais ces deux questions m'intéressent pas. Parce qu'en fin de compte, elles ne sont pas régionales. Moi, j'ai vécu comme beaucoup de personnes où on apprend à utiliser les outils, mais pas à les comprendre. C'est comme quand tu parlais du langage informatique, du code. Bien souvent, on va taper du code, on va utiliser un logiciel, on sait démarrer un PC, mais on ne sait pas du tout comment fonctionne un ordinateur, qu'est-ce que de la RAM, qu'est-ce qu'un CPU, qu'à quoi sert un disque dur, qu'est-ce qu'un software. Puis qu'est-ce que ça va faire dans la patente, etc. Puis après, le fameux aspect du code, c'est oui, mais le code, c'est quoi? Puis j'ai trouvé ça extrêmement intéressant que tu l'amènes. Bah, c'est un langage, c'est comme une langue. Puis à partir de ça, tu peux démystifier. Parce que personnellement, je suis très partagé entre la mauvaise habitude ou l'effet de mode où l'école doit tout nous apprendre. Et à l'inverse, l'abus de la responsabilité individuelle, et là on tombe dans ce que tu as souligné, qui est que tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes les technologies, tout le monde ne peut déjà même pas se déplacer pour avoir accès à ces technologies. Il y a des places où tu peux aller tester, exemple, une case de réalité virtuelle, des outils, mais si tu n'as même pas une auto pour pouvoir y aller, tu n'as pas le luxe de pouvoir te déplacer, les parents sont au travail, toi tu es à la maison, tu te dis, on tombe dans ces... Un peu comme tu sais, la lecture, faut avoir une bibliothèque, puis il faut qu'elle soit bien équipée, puis il faut pouvoir y avoir accès aux bonnes heures, etc. Donc, je vais faire un switch. Là, on discute depuis avant, puis c'est génial parce que tu nous as amené dans toutes les directions. Toi qui as quand même un beau vécu, quelle est la question qu'on t'a jamais posée, mais que auquel tu aurais toujours voulu répondre? Vous avez 2 heures.
Une question qu'on ne m'a jamais posée, que j'aurais toujours voulu répondre. Vraiment, je ne suis pas certain, Ziad. C'est difficile. Mais écoute, pendant que j'y pense, dans
Oui.
l'arrière de ma tête, je vais revenir avant parce que
Vas-y,
tu m'as
vas-y.
amené à quelque part. Tu as dit, tu as passé des longues années dans le milieu de l'éducation. Oui, pas dans le système. J'ai pas, j'étais pas dans la salle de classe puis tout ça. Mais quand j'étais au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, j'ai passé seulement 2 années là avant d'arriver au réseau d'enseignement francophone à distance. Et le grand chantier qui animait à ce moment-là le ministère de l'Éducation, c'était le projet de développement des compétences. Et puis, ce projet de développement des compétences, c'était de changer l'école d'un apprentissage de connaissances à une acquisition de compétences. Puis comment qu'on fait ça? On fait ça en posant des questions, puis en laissant les jeunes trouver la réponse. Et ça, je veux dire, aussi simple que c'est, comme tu regardes le cadre, tu regardes les prémices, c'est simple, c'est logique, mais c'est pas si évident que ça à mettre en place. Et puis, bon, on est en marche vers ça, mais ça, c'est quelque chose auquel je crois, puis je pense qu'il est vraiment susceptible de changer le monde. Que cette idée-là, qu'on a chacun des aptitudes, on a chacun des qualités, des talents à catalyser dans une certaine direction, et que ça, c'est un bagage unique, et il faut savoir nous le maîtriser pour le recoller ensemble. Alors, quand on parle de compétences, ben on dit c'est la question de savoir agir avec nos connaissances.
Oui.
Et puis là, on va le trouver dans la communication, on va le trouver dans la résolution de problèmes, on va le trouver dans toutes sortes de choses. Mais ça, je trouve ça absolument génial. Puis, je trouve que c'est un beau modèle qui nous amène à penser un tout petit peu plus. Puis, quand on m'a annoncé le non-renouvellement de mon contrat au ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, j'avais rencontré le ministre de l'Éducation à l'époque, Dominique Carley, puis je lui ai fait part du projet qui me tenait tellement à cœur. Puis je disais, Monsieur le ministre, on devrait mettre nos écoles, nos jeunes au travail à résoudre le problème du réchauffement climatique. On devrait leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que société, pour améliorer le système. Puis je pense que les jeunes auraient beaucoup à faire, puis à amener, pour se mettre en action pour comment tu sais, à résoudre ce problème-là, qui est un problème majeur, qui est plus qu'un problème de société, c'est un problème de survie, là, tu sais. Et puis, bon, écoute, le ministre a trouvé ça bien intéressant, puis pour toutes sortes de raisons pratiques, on n'est pas allé là, bien sûr, et c'est de l'histoire passée, mais tout ça pour dire que c'est la direction que j'aurais voulu aller. Puis pour revenir à ta question, quelle est la question qu'on m'a jamais posée puis que j'aurais toujours aimé entendre? Je pense que différents moments, la réponse serait différente, mais à ce point-ci, ça serait surtout d'élucider qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Puis comment est-ce qu'on entrevoit qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je pense que la réponse à ça, c'est une réponse qui change sans cesse tout le temps de sa vie, mais que la seule manière d'arriver à trouver cette réponse-là, c'est de chercher activement. Et puis, à partir du moment qu'on cherche cette direction-là qu'on veut avoir, ça t'amène peut-être à des endroits très sombres, des endroits très difficiles de déprime, si tu veux, de dépression, de manque de confiance. Mais à un moment donné, boum, parce que tu es en démarche active, ça débloque. Et puis moi, de voir qu'est-ce que les gens font avec ce qu'ils font, c'est toujours une source de... Qu'est-ce que les gens font avec ce qu'ils sont? C'est toujours une source d'émerveillement. Je suis conscient que ce n'est pas une très, très bonne réponse, Ziad, à ce point-ci. J'aimerais ça t'amener à autre chose puis développer un peu mieux, là. Je suis comme toi, les idées se bousculent un peu dans ma
Oui.
tête. Je ne vais pas
Écoute,
nécessairement.
en toute
Oui.
sincérité, c'est la plus belle des réponses que tu pouvais amener, c'est la tienne. Point.
Bon.
Mais c'est
Merci.
intéressant comme tu l'as amené parce qu'effectivement, il y a comme une. Je vais faire un parallèle un petit peu sur la remarque que faisait ta compagne sur la comparaison entre où en sont vos enfants versus les autres enfants, etc., etc. On est dans une forme de dictature du gros village. Je vais l'appeler comme ça. Que ça soit Instagram, que ce soit les réseaux sociaux, etc. En fait, on ne change pas de qu'on habitait des petits villages où on comparait le fils de la voisine avec la fille du boulanger, avec etc., etc. Puis on est resté dans cette idée de façade, parce que bien souvent, on voit juste ce que les gens veulent bien nous laisser paraître, ou ce que nous, on fantasme d'eux, plutôt que la réalité. Parce qu'au contraire, moi, je suis beaucoup plus rassuré d'entendre que tes enfants sont comme ça. Non, mais sincèrement, plutôt que de reproduire, bon après j'ai mes propres biais, que de reproduire le modèle des années 50-60, il te faut une maison. Surtout quand on regarde les réalités, c'est comme actuellement, les gens qui sont en train de signer pour des maisons, période de pénurie, d'augmentation des taux, ils sont en train de se saigner pour les 20-30 ans, ils sont en train de se mettre dans des situations pas possibles. Le nombre de personnes qu'on connaît qui se mettent dans des situations soit professionnelles, soit personnelles, parce qu'ils pensent que c'est la bonne norme ou qu'ils doivent être comme ça, plus que se demander qu'est-ce que eux veulent vraiment. Et c'est pour ça que je vous félicite, puis je te félicite personnellement, je félicite évidemment mes parents. C'est rendu un luxe de se laisser effectivement le temps de vivre ces émotions, positives et négatives. Ça aussi, c'est le diktat, tout doit être super. Bah non, brailler un bon coup, ça fait partie de la vie de tous les jours, ça fait partie du fonctionnement des êtres humains. Puis c'est grâce à ces périodes-là qu'on peut vivre les meilleures. Un peu comme les 2, 3 semaines qu'on a eues d'automne. Puis là, il fait enfin beau à nouveau. Puis on en profite. Donc là, je suis parti dans tous les sens. Donc non, je veux juste te féliciter, puis vous féliciter, parce qu'effectivement, de plus en plus, je remarque que les parents, de façon souvent bien intentionnés, essaient de réapposer l'ancien modèle. Moi, j'ai une maison, donc toi, il faut que tu aies une maison. Moi, je suis dans la même place depuis 10-20 ans, donc toi, il faut que tu trouves une place. Il faut que tu fasses des études, parce que les études, c'est important. Puis là, on se retrouve face à une génération qui a la vingtaine, qui est plus éveillée ou qui a plus accès à plein d'informations. Déjà, ils ont vu les dépressions ou la qualité de vie des grands-parents, des parents, des amis des parents, des voisins. Ils sont au courant de ce qui se passe, eux. Parce que quand tu as 90 ans, le réchauffement climatique, ça ne te concerne pas, baba. Quand tu en as 20 ans, un peu plus. Et tout ça m'amène à quelque chose que j'ai le goût d'échanger avec toi. Est-ce que des fois, tu réalises qu'en fait, nous, on a des problèmes de vieux? C'est quelque chose que j'aime rappeler aux gens. Dans les pays occidentaux, on a une population qui est vieillissante. Majoritairement, donc c'est elle qui décide à peu près toutes les lois. Mais il y a la grande majorité de la planète où 80% de la population, ils ont 20 ans et moins. Eux, la retraite, avoir une maison, tout ça, ils s'en sacrent, c'est pas dans leur priorité, ils sont dans quelque chose de nouveau, d'autre chose. Ils n'ont pas forcément les moyens, mais tu sais, ça pétille à l'autre bout. Est-ce que des fois, tu constates ces deux esprits-là ou ça te passe loin? Est-ce que ce que je viens de te dire t'inspire quelque chose?
De savoir si on a des problèmes de vieux, je l'entends souvent formuler de la manière de ça, c'est un problème de riche. Où est-ce qu'on se casse la tête avec des détails, mais qui font toute partie de nos privilèges. Puis, qui me préoccupe davantage, c'est le. C'est toi qui l'as amené, Ziad, cette dictature finalement de l'image, cette dictature de la réputation ou du succès. Et je ne peux pas imaginer la pression que nos enfants vivent de devoir grandir avec leur image et leur succès et leur beauté sur Internet et tous les grands voyages qu'ils font, puis toutes les choses extraordinaires. Puis tu l'as tellement dit, hein, t'as cette façade-là qui a l'air d'être une vie idyllique, et tout d'un coup, tu apprends que sordidement derrière ça, ils se sont tous entretués, ils s'haïssent tous. Mais c'est deux réalités, la réalité de ce que tu veux bien montrer versus ce qui se passe en réalité. Et la pression qu'on a correspond vraiment, vraiment bien. Écoute, je lisais récemment un excellent, excellent article de Ezra Klein dans le New York Times qui se demandait est-ce qu'on est en train de recréer avec l'intelligence artificielle les problèmes qu'on a créés avec l'Internet? Avec l'Internet, tout d'un coup, toute la connaissance du monde est disponible au bout de tes doigts immédiatement, ce qui s'écrit aujourd'hui comme ce qui s'est écrit dans le passé et tout ça. Puis en même temps, on met des appareils dans les mains des gens. Ces appareils-là cessent pas d'interrompre leur pensée, cessent pas de les déconcentrer, cessent pas de les faire passer d'une chose à l'autre. Là, on se fait tous croire qu'on est capable d'être des multitaskers, là, tu sais, on est capable de faire du multitâche, alors que ce n'est pas vrai. Notre cerveau, quand on travaille sur des courriels dans un domaine, il établit un tableau blanc, il met toutes les données là, puis tout ça. Puis quand on passe à autre chose, on passe du courriel à une discussion sur un projet, mais là, tu as fait ce tableau blanc, puis comme le tableau blanc, il reste des marques un tout petit peu partout, puis tu es encore en train de penser à ce qui s'est passé dans ton courriel il y a 20 minutes, alors que tu es en train de travailler sur ton projet. L'esprit fonctionne pas de même, et puis avec nos appareils qui nous interrompent sans cesse, on est constamment stressé,
Oui.
puis nos jeunes vivent ça. Alors, quand tu es en train de tu es à l'adolescence, en train de développer ton image, en train d'essayer de savoir où est-ce que tu t'en vas, avec la vitesse de développement aussi, de maturation qui est différente entre les garçons puis les filles, on amène vraiment toutes sortes de problèmes. Là, on regarde, je te donne deux grandes lignes. Un, aux États-Unis, on considère que ils sont très peu éduqués parce que l'éducation n'est pas un service de l'État. Les Américains sont devenus ignorants et puis ça donne des guerres, ils sont tous armés. Là, ils sont en train de s'entretuer. On ne sait pas où est-ce que ça en va, cette histoire-là. Peut-être qu'on va couper ça au montage à nouveau. Et puis,
Non, on va tout garder.
j'ai perdu mon train de passer parce que je voulais aller avec l'autre. Mais écoute, c'est vraiment de la pression, une pression extraordinaire sur les gens. Puis avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas clair où est-ce qu'on s'en va avec ça. Parce que quand tu étais capable de générer une dizaine d'idées en 1 minute, ben tu demandes à ChatGPT, puis il va te générer une centaine d'idées en 1 seconde. Et puis là, ben, en même temps, ben, ça va être un peu n'importe quoi, comme on va voir, comme ils ont fait récemment avec des diagnostics médicaux ou bien des soumissions aux journaux, que c'est bourré d'erreurs puis qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Ça a été complètement réassemblé au montage, mais à partir de trop de sources, ce n'était pas encore réel. En même temps, ça va nous prendre des gens pour traiter cette information-là puis savoir est-ce que c'est bon. Donc, tu vas mettre ChatGPT à générer de la cochonnerie, puis ChatGPT à vérifier la validité de la cochonnerie, puis pendant ce temps-là, ben, ton esprit à toi est plus impliqué là-dedans, tu fais plus partie du processus, tu n'apprends plus rien, tu fais juste regarder un sommaire, comme si je te fais un sommaire d'un livre de Baudelaire en 10 points, est-ce que ça vaut l'expérience de lire le livre? Je ne pense pas. Donc, ça revient à tout ça. Donc, en ce moment, là, sérieusement, pour plusieurs enjeux majeurs, on est dans une période critique de la planète et de l'évolution de la planète. On parle des technologies, on parle de l'intelligence artificielle, on parle du réchauffement climatique, on parle de la migration. Écoute, à nouveau, je t'emmène trop loin, mais c'est parce que
Non,
je suis
mais
un gars qui lit les journaux, puis
ah,
je suis un gars qui se passionne de ces
ben oui.
questions-là, puis c'est pas facile à résoudre. Est-ce que
Oui.
on devrait, est-ce que toutes les écoles devraient enseigner ça aux jeunes? Tu l'as bien dit toi-même, hein? L'école ne peut pas être tout pour tous parce qu'on leur demande de leur donner plus de littératie financière parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas, d'apprendre à savoir la mécanique, mieux connaître les technologies. Et il n'y a juste pas assez de temps à l'école. Donc, c'est pour ça que le développement des compétences est extraordinaire. C'est qu'à la place d'essayer de t'enseigner ces connaissances-là, on dit, voici un problème, résous le problème, puis en faisant ça, ben là, tu vas travailler avec des logiciels de budget, tu vas travailler avec tes mathématiques, tu vas travailler avec le langage, tu vas travailler et tu développes l'ensemble de tes connaissances dans une démarche active. Je radote un peu, je reviens en
Ah
arrière,
non, non,
alors.
du tout, du tout, du tout. C'est juste que tout ce que tu viens de dire, puis je prends des notes exprès, t'as abordé une multitude de points sur lesquels j'ai le goût de rebondir. Puis je vais aller dans l'ordre, donc moi aussi je vais faire un rewind en bon français. Donc je trouve ça intéressant ce que tu as dit justement sur, comme on dit, bah, la différence petit garçon, petite fille. Moi, à force de lire, puis avec le temps, commence de plus en plus à considérer le contexte. C'est plus des attitudes, etc., parce qu'il n'y a pas vraiment de littérature scientifique neutre qui permet d'un côté à l'autre. Parce que je sors vraiment de notre littérature purement occidentale, canadienne ou européenne. Donc ça, je trouve ça intéressant. Pour les États-Unis, moi, je suis devenu moins critique avec le temps, parce qu'en fait, Faut comprendre que les États-Unis sont une société ethnocentrée. Ils sont pas moins intelligents que nous autres. C'est juste qu'eux, ils connaissent leurs 50 États, mais ils connaissent aucun pays de la planète. Nous, on connaît les 50, on est capable de placer 50 pays sur la planète, mais citer nos propres régions, provinces, on les connaît pas. Normalement, puis là, je fais des guillemets à la caméra, un citoyen américain est capable d'expliquer comment fonctionne son gouvernement, les différentes chambres. Au Canada, la grande majorité du monde, puis au Québec, c'est pas exactement comment fonctionne comment sont mises les lois, qui est son représentant, quels sont les vrais pouvoirs. Puis ça, moi, je l'ai expérimenté lors de discussions avec mes amis, parce que c'est une démarche volontaire que tu dois faire pour t'intéresser. Puis c'est un peu ce que tu avais amené, Robert, sur que c'est limite un devoir, c'est tu es dans une société, dans un fonctionnement, faut au moins que, même si la politique ne t'intéresse pas, au moins que tu saches comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'un député, qu'est-ce qu'un sénateur, comment fonctionne une loi. Un peu comme, tu sais, quand il y a eu les lois sur l'avortement aux États-Unis, toute la planète a chialé. Mais on n'est pas américain. Je veux dire, on est canadien, on est suisse, on est français, on est tunisien, on est angolais, on est brésilien, on a tous nos propres. Combien on fait juste la démarche en disant, OK, là, je veux dire, il y a une loi permissive qui est en train de se créer, mais nous, notre droit à l'avortement, il est protégé jusqu'à quel point? Puis c'est là où tu découvres qu'en fait, la loi au Canada, elle est pas si. Elle peut devenir rapidement caduque. Puis assez rapidement. Donc tu dis, OK, donc faudrait peut-être commencer à s'occuper peut-être de notre propre maisonnée avant de commencer à s'occuper par le voisin. L'autre truc que tu avais amené, que j'avais intéressant, c'est on a tendance à surestimer le cerveau. Tu sais, quand tu parlais de. On connaît les mécaniques, mais depuis toujours, on ne peut pas faire confiance à notre cerveau. Le nombre de fois où on croit avoir vu quelque chose, où on pense avoir vu quelque chose, puis le côté shiny, ah ça bouge, ça m'intéresse, ah bah tiens ça, on est les premiers, puis en plus avec l'expérience, on est les premiers à savoir comment se motiver soi-même ou se démotiver soi-même. Donc déjà là-dessus, ce qu'on considère comme la plus belle réussite de l'humanité, bah, en fait c'est quelque chose d'extrêmement facile à leurrer. C'est comme que tu l'as dit. Tu connais les logiques d'hameçonnage, on connaît tous, mais tu as passé une mauvaise journée, tu es dans un stress où il y a une actualité qui parle qu'actuellement il y a des problèmes avec Bell, tu reçois un texto de Bell, tu dis ouais, mais ouais, c'est logique, tu sais, dans ton monde, mais tu le sais, sauf que voilà. L'autre élément que tu as amené actuellement sur le buzz qui est autour de l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'à date, je passe beaucoup de temps à le vulgariser et puis à donner de plus en plus de conférences. Parce que, un, c'est un outil qui est là depuis très longtemps. C'est juste qu'on est en train de le redécouvrir. Surtout, ça reste un outil. Puis surtout, c'est un outil qui est basé sur des tonnes de biais. Par exemple, ChatGPT et les autres, on est en train de découvrir où on a des réponses. D'Américains anglophones, parce que la grande majorité de sa littérature, de ses bases de données viennent de là. Puis c'est très intéressant, parce que quand tu compares typiquement à l'IA chinoise, c'est l'autre opposé, c'est la vision du parti que nous apprécions tous, évidemment. Hein. Mais mon téléphone est chinois, je le répète une fois par jour, puis j'ai jamais aucun problème de connexion. Oh, tout ça pour dire que tu sais, je te reviens comme toi. Tu sais, la pensée magique de tu poses une question, ça va te donner la réponse. C'est intéressant de comprendre comment. Un peu comme les gens qui disent en disant, ah bah tiens, je lui ai fait passer tel examen, il l'a raté. Mais tu as exactement d'autres personnes qui vont poser les questions, les structurer de façon différente et les amener, puis l'IA va réussir. Sauf que là où on est en train de se faire avoir, d'où le coup du cerveau, c'est que c'est devenu un chatbot. Donc il nous parle et il nous parle de façon à comme si c'était un ami ou quelqu'un en qui on peut faire confiance ou la façon de. Puis dernièrement, il y a un truc qui m'a fasciné, c'est que j'ai regardé une analyse du film IA de Spielberg par un journaliste et accompagné par une IA. Puis c'était extrêmement bien fait. Bah justement, tu sais, elle comparait. Puis typiquement, l'IA qui était ChatGPT commençait à bah, écouter, on est concerné. Puis le journaliste disait, comment ça, on? T'es pas un humain? Effectivement, mais je disais on afin de pouvoir nous englober. Puis tu sais, elle t'explique, je veux dire, pourquoi elle a utilisé on, en quoi c'était un hack mental, social, etc. Puis qu'effectivement, elle ne fait pas partie de l'humanité et tout. Puis tu te dis, mais pour moi, c'est du bonbon intellectuel. Puis en plus, c'est intéressant de voir ce qu'une IA pense d'un film où on met en avant une IA pour parler de l'humanité. Puis tu te dis, ouais, mais on va trop loin, puis j'adore ça. Et je finis par le fameux développement de compétences, où effectivement, c'est des vraies questions de société où on se marche un peu sur la tête, et là je te rejoins, où on a beau vouloir axer la formation sur l'apprentissage des compétences, apprendre à apprendre, parce que moi ça m'a toujours choqué, faut aller à l'université pour apprendre à apprendre, donc ça devrait être le premier élément. En revanche, tu as beau avoir tout ce que tu veux au niveau des compétences, l'élément qui va rester, c'est est-ce que tu as eu ta note de passage? Oui et non. Et puis là, on ne te demande pas de réfléchir, non, c'est tu dois régurgiter la bonne réponse, comme le permis, puis tous ces trucs-là, où non, pas de logique, pas de réalité, non, comme ça, régurgiter, puis si tu as ces capacités, bah, tu as une bonne note, puis après, c'est valorisé dans la société. Alors qu'en fin de compte, le nombre de fois où on dit qu'on a appris des trucs par cœur pour l'examen, mais qu'on ne sait absolument pas ni de quoi ça parlait, qu'on ne s'en rappelle pas 6 heures après. Donc, toi qui as essayé de militer pour cette révolution-là, est-ce que tu es encore confiant pour ces prochaines années ou te dis non, maintenant on va tous faire l'école à la maison?
Honnêtement, moi je suis vraiment très confiant parce que ce que tu décris là pour obtenir une accréditation de compétences, puis là j'utilise le mot, alors c'est pas vraiment de compétences, mais plutôt une accréditation de qualification
Oui.
pour un domaine professionnel ou etc. est beaucoup trop souvent axé sur la mémoire, le par cœur, la régurgitation de choses que tu as apprises sans peut-être nécessairement les comprendre. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous amène à tout remettre ça en question parce que là, effectivement, les travaux qu'on peut te donner ne sont absolument plus représentatifs de la personne. Tu es presque obligé de faire des examens face à face, demander à une personne de OK, ben. Et c'est ça qui nous ramène aux meilleurs examens, c'est prends tous tes outils, prends ton ordinateur, connecte-toi comme d'habitude, maintenant reconstitue-moi la solution, résous ce problème-là et argumente-le. Là, on va voir qu'est-ce que tu es capable d'écrire. Alors là, malheureusement, ben, c'est pour ça que nos éducateurs veulent entendre, parce que là, ils ont des classes de 30, et puis ils doivent passer tout ce monde-là, puis on doit donner des comptes rendus aux parents, puis on n'en finit pas. Donc, faire des examens, où est-ce qu'il faut vérifier chacun uniquement, individuellement, ce n'est pas la solution pour eux autres. Mais en même temps, on va être obligé de faire ça parce qu'il n'y a plus moyen de contrôler si les gens disposent effectivement de ces compétences-là. Quand on va sortir de ça va renverser bien des phénomènes de classe, de remettre les gens à leur vraie place. Tu sais, quand tu arrives que tu es un immigrant qui a rien, mais qui a des dispositions pour travailler fort, puis pour apprendre, puis pour essayer de s'adapter, puis pour aider, puis s'inscrire dans sa nouvelle société d'accueil, parce que c'est tellement mieux que où j'étais, puis que je mourrais de faim. Ils vont tous nous déclasser, puis là, on va commencer à les haïr, puis à dire qu'il faudrait qu'on les mette dans un ghetto parce que ils nous volent nos jobs, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est dans ça qu'on est maintenant, là. Mais effectivement, ça vient de ton attitude personnelle au départ,
Oui.
de comment est-ce que tu veux apprendre, comment est-ce que tu veux travailler, puis quelle énergie tu veux mettre là-dedans. Puis ça dépend aussi de tes expériences, hein. Si tu as été maltraité quand tu étais jeune, ben ça ne te tente plus de faire ça. Mais donc, je ne sais plus c'était quoi la
Non, mais
question.
c'est parfait parce que je vais rebondir là-dessus parce que c'est pour vrai, cette rencontre, comme évidemment toutes les autres, c'est du bonbon. Puis je te remercie, Robert, pour tout ce que tu nous amènes et tout ce que tu nous échanges. J'abonde dans ton sens. Puis j'aimerais faire du pouce sur ce que tu as dit, qu'effectivement aujourd'hui on est arrivé à un stade où enseigner comme avant c'est plus possible parce que l'offre qui tourne autour est trop bien faite. Tu sais, aujourd'hui on dit le premier formateur c'est YouTube. Tu veux réparer, tu sais, avant je parlais de réparer un moteur, réparer un toaster, apprendre comment calculer une fractale. Limite, tu vas regarder sur YouTube, puis tu vas trouver la personne qui commune et avec qui tu sembles le plus en connexion, puis tu vas regarder, puis tu vas juste suivre, puis étape par étape, à ton rythme, puis tu vas apprendre en compé tu vas gagner en compétences beaucoup plus que dans un milieu scolaire, donc on a cette concurrence-là. Mais j'aimerais parler des profs, parce qu'effectivement, quand tu parles de l'intelligence artificielle, tous ces outils-là combinés à des éléments, bah, peuvent faciliter la job. Se mettre un
Oui.
professeur derrière un étudiant pour l'accompagner à chaque étape, c'est compliqué. Mais mettre une IA que tu as alimentée avec les bons. Allez, parlons en vulgarisation. Est-ce que j'ai affaire à un introverti, à un extraverti? Est-ce que la personne comprend bien la langue, la maîtrise bien? Au contraire, il faut que je simplifie mon langage. Est-ce que la personne, genre, c'est sa troisième langue? Donc, est-ce que je lui repréciser des choses dans sa propre culture, dans sa langue, permettre à la compréhension? Tu sais, on parle tous français, comme je dis, selon d'où on vient, mais on a souvent des faux amis. C'est le mot classeur cartable, stationnement, parking. C'est pas la même chose, puis ça peut
Ouais.
t'embêter. Après, si on a les biais culturels qui engagent, mais tout ça peut
Ouais.
être fait en même temps avec toutes les datas qu'on scanne. Est-ce que la personne est stressée? Elle est en confiance? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle souffre d'un handicap X ou Y? Comment je peux l'adapter, etc. Est-ce qu'elle répond rapidement, trop rapidement, pas assez rapidement? Est-ce que je peux lui donner des indices? Comment elle fonctionne? Comment elle justifie? Tout ça, c'est des éléments où la technologie peut nous aider. Puis après, tu peux faire un mini pointage en tant que professeur, puis te simplifier la vie, puis aller là où ton temps est vraiment nécessaire et offre une plus-value. Mais tout ça est à bâtir ou à utiliser, ou comme on dit à date, c'est comme tout. Tu sais, quand les ordinateurs sont arrivés, on s'est dit c'est une surcharge de. Ça va être de la job en plus. Jusqu'à que les gens commencent à se dire non, non, mais en fait, je suis en train de sauver de la job, je pourrais faire autre chose. Donc il y a toute cette attitude-là. L'autre élément que je voulais commenter, c'est aussi le biais culturel et d'où on vient, à quel point ça nous, au niveau de la formation, ça nous nivelle. Moi, souvent, c'est ce que je rappelle aux Français de France qui viennent ici, les Franco-Canadiens, les Québécois ne sont pas des Européens, c'est des Nord-Américains qui parlent français. Donc, c'est des codes nord-américains, une culture nord-américaine. Certains éléments sont valorisés, d'autres. Moi, en tant que Suisse, je suis un germanophone qui parle français. Et ça, je le précise parce que nous, on a vraiment une culture comme les Allemands. On ne fait pas de philosophie, on ne fait pas de. Alors que on travaille sur le concret.
Ouais.
C'est-à-dire, donc nous, c'est très orienté dès la primaire sur faut qu'on fasse des vraies choses, faut que ça serve à quelque chose, faut qu'il y ait une finalité. On n'est pas en train de se poser des questions sur l'univers et autre chose, ce qui fait déjà une formation de société. On est conservateur. Tu sais, quand tu parlais de l'éducation à la finance, nous, on l'a très jeune. Sauf que nous, on nous dit dès que les obligations, c'est bien et que les actions, c'est le mal. Spéculer, c'est pas bien. Il faut déposer, faut penser petit,
Ouais.
faut être précautionneux, faut pas prendre de risques. Ça, c'est des trucs de fous américains qui se ruinent. Non, non, nous, on est. Voilà, un sou, c'est un sou, faut faire attention. Pas. Puis après, ça rentre avec la société. Faire attention, pas trop de place. Puis ensuite, quand tu comprends que de toute façon, on est une petite société entassée dans 30% du pays, etc. Donc rien ne vient de nulle part. Mais ça crée tous ces petits. Je dirais
Des tensions, des frictions, des
Oui, friction. C'est
conflits.
toutes ces frictions qu'on se croise les uns les autres. Plutôt que de prendre le temps d'échanger un peu, puis de voir quelles sont les forces. Pour s'asseoir, réfléchir, penser, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais pour produire quelque chose, puis réaliser ce qu'on va le faire. Parce que moi, souvent, je le raconte. Moi, mon premier apprentissage, c'était dessinateur électricien. Puis j'avais de la chance à l'époque, parce que chaque 6 mois, je passais un mois sur les chantiers. Puis normalement, tu es dans un bureau technique, tu vas pas sur les chantiers. Mais le nombre de choses que j'ai appris sur... Parce que, je rire, t'as ton calque, un trait, c'est facile. Sauf ce trait-là, quand tu es sur le chantier avec ta bassette et ton bureau, puis que tu penses ta journée à essayer de péter le mur en béton, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris 2 secondes à réfléchir en se disant, mais qu'est-ce que la personne sur place va vraiment faire? C'est extrêmement formateur. Puis après, tu penses de façon consciente ou inconsciente à chacune des répercussions plus loin. Puis je parle de ça parce que ça fait partie de tous ces apprentissages qui nous manquent des fois ici, ou qu'on n'a pas, tu sais, où on ne pense pas forcément à la finalité, tu sais, on va étudier un métier, mais bien souvent, les gens n'ont pas ni fait de stage, ni vécu sur le terrain. Donc, un grand merci de m'avoir amené dans toutes ces directions-là. Le temps passe tellement vite, c'est sûr que moi, je vais te réinviter, toi qui as un très beau parcours de vie, c'est mon point de vue à moi. Puis je te remercie avec tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu nous as échangé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais le goût de nous partager? Exemple, quelque chose que les gens devraient savoir, mais ont tendance à ignorer.
Aïe, aïe, aïe. Peut-être deux choses. Puis là,
Oui.
en disant deux, je vais oublier la deuxième après avoir évoqué la première. Mais c'est ce qui se passe ici entre toi et moi, Ziad. Deux personnes qui parlent. Une personne parle, l'autre écoute, approuve, renforce, mais la personne a le temps de parler. Quand tu tombes dans le milieu du travail, puis que tu es en équipe, c'est vraiment difficile d'avoir le temps, le moment de placer ton mot puis d'être entendu pour ce que tu crois qui est important. Et le temps que tu perds à écouter les autres raconter des choses qui n'ont pas rapport, des choses que tu sais déjà, c'est vraiment difficile quand tu n'es pas patient comme moi. Alors, j'apprécie énormément un échange comme celui-ci, un échange à deux, où est-ce que tu me donnes la parole? Parce que moi, en toute transparence, dans la vie, je suis plutôt effacé puis pas celui qui parle dans le groupe. Souvent, je voudrais parler, mais je n'ai jamais la chance parce que mon tempérament ne me le permet pas. Alors, ça, c'est quand je dirigeais j'étais à la tête du REFAD, c'était quelque chose parce que j'ai réalisé, les gens disaient Robert Grégoire, très bonne facilitation, vraiment agréable, vraiment intéressant comment est-ce qu'il relance la discussion. Ah oui, les gens pensent ça, j'aurais jamais pensé. Alors, cette idée-là d'être capable d'avoir le temps de s'exprimer et d'avoir la place dans un groupe pour le faire, c'est tellement important. Puis c'est pour ça que moi, quand j'organise une réunion, j'aime ça dire, je commence ma réunion de un, j'envoie les documents à l'avance, de deux, je m'attends à ce que les gens aient pris connaissance, de trois, je m'attends à ce qu'on commence la réunion, à ce que toi, tu me fais un sommaire de ce que tu as compris, qu'est-ce qui est important pour toi, on fait un tour de table de même, tout le monde parle, je vais t'écouter, puis on se répétera pas pour rien. Alors donc, dans le processus de l'échange, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis là, tu me demandais une autre chose que je l'avais sur le bout. Je savais que j'allais l'oublier.
Oui, ça s'appelle
En
la
mouche.
auto. Non, mais c'est la prophétie autoréalisatrice. Tu aurais pas dit que tu es allé oublier la deuxième partie, tu l'aurais pas oublié. C'est
J'aurais pas dû dire ça.
ça. Le gars de marketing en moi aurait dit ça, c'est typiquement, tu commences sur ta première idée, puis quand tu vois que ta deuxième part pas, tu dis écoutez, au prochain épisode ou saison 2, Goutoum.
Ça.
J'attends. Ah, je vais utiliser.
J'essaie juste de me souvenir, Ziad, puis ça, tu
Oui.
pourras le couper, là.
Mais non,
Parce
non,
que,
c'est pour moi.
répète-moi ta question, quelque chose que je voulais partager, puis que j'ai pas eu le temps,
En
hein.
fait, non, c'était plus vaste. C'était bien souvent, on sait quelque chose que la grande majorité du monde ignore, et qu'on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ne le savent pas? Ça peut être aussi bête que des fois, c'est, je ne sais pas moi, à quoi sert un robinet de radiateur? Certains n'en ont pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose? Je dis des fois, c'est des grandes histoires, c'est des philosophies. Et une anecdote qui est toute bête, les gens, quand ils vont à Rome, et puis là, c'est moi qui... C'est une technique que j'utilise souvent où je fais des très longues questions, ce qui permet à l'autre personne de prendre le temps de se fixer et de réfléchir. Alors que ce qui est le fun, c'est que je prends la lumière, puis les gens se disent, ouais, mais il parle beaucoup, Ziad, oui. Mais l'avantage, c'est que l'interlocuteur ou l'interlocutrice a le temps, elle, de briller, puis de toujours se rappeler quel est son objectif final. Donc, je reviens. Tout le monde connaît la fontaine de Trévi à Rome. C'est bondé, il y a du monde partout, bah, c'est de l'eau, tu vas acheter des pièces, etc. Mais à deux ou trois rues d'ici, j'ai le plan dans ma tête, mais il existe une fontaine à vin avec un vin italien rouge de qualité
Ah
gratuit.
oui, hein?
C'est ça. Puis c'est vraiment en fait un mini-abri avec un petit robinet. Puis quand parce que tu as des robinets à eau un peu partout, c'est dans la tradition, mais là, c'est un robinet à vin. Puis une des anecdotes, c'est qu'il y a plein d'histoires qui tournent. Alors, ça viendrait d'un monastère, ça viendrait d'une cave, ça vient de la cave du Saint-Père, ça vient de... Bref, mais non. Donc, ça veut dire que la grande majorité du monde essaie de prendre une photo sur le site que tout le monde connaît, mais à deux rues de là, il y a une perle que tout le monde ignore, avec un vin rouge de qualité. Donc ça fait un truc que je vous partage. Puis je vais essayer de retrouver... Ah, je suis toujours partagé à donner ce genre d'endroit. Bah, tout ça. Si on se recroise, posez-moi la question, je vous donnerai le lieu exact. Mais ça fait partie de ces petites choses avec cet effet waouh. C'est comme un autre truc aussi qui est classique. Si vous êtes en voyage accompagné, et qu'on vous dit que, je sais pas, moi, mardi, on va visiter telle place, considérez souvent qu'on va visiter en groupe ça à mardi parce que c'est payant et que lundi, c'est gratuit. Donc, allez-y lundi. Ça, c'est les trucs de touristes, un peu voyageur ou un peu explorateur. Donc, c'était ça. Est-ce que si tu n'es pas inspiré, c'est pas grave, on passera à l'autre question.
Honnêtement, on va
Ouais.
aller à l'autre question, puis peut-être que ça me reviendra, Ziad, malheureusement. Je t'écoutais, puis je t'ai rendu à boire du vin sur la à Rome avec toi.
Ah, écoute, mais tellement. Avant la Covid, je voulais me refaire un trip en Europe. Enfin, bref. Sauf que là, on est rendu après la Covid. Et je me dis que si je retourne en Italie, moi, j'aurai un avantage, c'est que je vais revenir en flottant. Mais non, c'est
Ah oui.
extrêmement dangereux. Non, non, parce que là-dessus, la nourriture. Puis tu sais, quand tu parlais de la sollicitation. Et inconsciente et consciente des réseaux sociaux. Je parle de ça parce que pour une ou X raisons, j'ai dû retomber ou reliker un truc en Italie. Puis depuis quelques semaines, je suis bombardé de vidéos qui me parlent de nourriture italienne, de boissons italiennes, de vino italien, bref, de l'Italie comme je la connais, comme je l'aime. Puis tu te dis, ouais, tu sais, le fameux pouce au crime, swipe ta
Oui,
carte.
oui, 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 oui. Oui. Ben, écoute, ça m'amène à cet autre effet-là des médias sociaux puis de
Oui.
l'Internet, c'est de t'alimenter avec ce que tu aimes,
Oui.
ce que tu sais déjà, puis où ce que tu tiens déjà. Donc, ça fait juste renforcer tes biais. Je trouve que c'est un phénomène vraiment dangereux qui a tendance à élever les uns contre les autres, à aider les gens aussi à se retrancher, là. Et puis, je voulais retourner, Ziad, sur l'histoire. Ben, j'oublie encore. Non, excuse-moi, il y a trop, 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 trop de choses.
Écoute, je dis, on est entre nous autour d'un café, d'un thé ou d'un kombucha et peut-être d'un apéro, mais ça sera off. C'est pas grave, tu sais, c'est comme tout, faut jamais forcer, faut laisser partir ses pensées, puis elles reviennent souvent toutes seules. Moi, je trouve
Et,
que
ben,
oui.
écoute, un phénomène extraordinaire dont il faut se rappeler, c'est que le cerveau a besoin de pause entre deux tâches
Oui.
pour se remettre en bon fonctionnement. Et on s'est rendu compte que les gens qui passaient leur journée en réunion Zoom, je ferme ma réunion Zoom, on a discuté de tout ça, je rembarque dans une autre réunion Zoom, on discute de tout ça, je passe à la prochaine réunion Zoom, à la fin de la journée, là. On ne se souvient de rien. Parce que le cerveau fait juste sauter d'une chose à l'autre, puis il n'y a pas le temps de finalement. Ben là, il faut retourner à ses notes, etc. Mais Il y a tous ces phénomènes-là qui sont encore pas tellement bien compris. Puis, tu sais, c'est comme l'idée de. Je me souviens, ma blonde me disait, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné le F-16, puis les tanks Abrams, puis tout à l'Ukraine au début? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait niaiser de même? Bien, il y a deux choses. De un, tu n'as jamais vécu une situation de même et tu ne veux pas enflammer la situation. Donc,
Oui.
tu penses, tu réfléchis, tu ne peux pas juste poser la question à ChatGPT puis dire, qu'est-ce que je devrais faire? Parce que comme pour la COVID, ça n'a jamais existé. On est face à une crise planétaire qui est nouvelle. Puis il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, puis du mieux de notre connaissance. Et puis les réponses ne sont pas claires.
Oui.
Après coup, on s'est rendu compte que ben, peut-être qu'on a fait cette erreur-là, puis cette erreur-là, puis pourquoi ils n'ont pas fait ça? Oui, mais ça, c'est après coup. Quand tu es posé, tu es pris avec le problème, ben, tu y vas du mieux que tu peux. Donc, c'est un petit peu ça. Puis là, je pense que c'est ça que mon cerveau est en train de faire, là. Il est en train de dire, là, on a sauté d'une chose à l'autre beaucoup. Et puis, on perd nos idées à un moment donné.
Mais c'est très important ce que tu nous as rappelé là, qui est effectivement l'importance de faire des pauses. Pour vrai, un très grand merci, Robert, pour la qualité de cet échange, ta transparence qui est toujours extrêmement appréciée, puis une belle inspiration. On a commencé très fort, puis on. Écoute. Je vais dire, c'est comme une descente de ski. On a commencé, on a attaqué la piste très fort, puis on a tenu le rythme très longtemps. Mais on ne va pas faire ça toute la journée, on va s'arrêter un moment. Donc
Ah
c'est un peu le même esprit. Sincèrement, c'est les yeux dans la caméra pour moi. Un grand merci, Robert. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu n'as rien à vendre, tu n'as pas de lien, tu n'as pas de.
oui.
Donc, c'est vraiment un beau cadeau que tu nous fais de ce temps de qualité, surtout à moi. Donc, une dernière fois, un grand merci Robert, et je te laisse le mot de la fin.
Ben, écoute, c'est le privilège pour moi, Ziad. Comme je te dis, le simple fait que les gens te disent, on est prêt à t'écouter, qu'est-ce que tu as à dire, je trouve ça extraordinaire. Puis autant c'était comme une pression, puis je me disais, ben voyons, j'ai rien à dire, moi. Mais en même temps, dans un échange, puis avec ta bienveillance, puis ton ouverture, puis ton alimentation, on est capable d'aller à différents endroits. J'ai parlé de choses qui me plaisaient. Et puis, tu sais, si seulement une personne peut être inspirée par quelque chose, ben j'aurais rencontré, bon, tu sais, ça aurait valu la peine, Ziad. Alors, je te remercie. Ce que tu fais là, c'est pas évident. Il faut y croire, il faut persévérer, et ça, c'est ton mérite, qui te revient entièrement, je le souligne, que de continuer là-dedans. Je regarde le nombre d'entrevues que tu as fait, le nombre de personnes que tu as rencontrées. Je peux juste imaginer l'ampleur des conversations et des sujets que tu as touchés. Ça va toucher du monde, ça va faire la différence dans la vie de certaines personnes. Je trouve ça important. Ce qu'on a discuté aujourd'hui, ce n'est pas la vérité, c'est juste un sujet de discussion. Et là, en terminant, coupé au montage, mais peut-être tu pourras remettre ça avant. La deuxième chose, Ziad, que j'oubliais, qui est tellement importante, c'est que la somme des idées de plusieurs personnes est toujours supérieure à l'addition du nombre de ces personnes-là. Et moi, j'ai vécu ça quand j'étais au groupe des technologies d'apprentissage. On réunissait un artiste graphique, un programmeur, un spécialiste vidéo, un gestionnaire de projet, et puis le spécialiste de matière, nommer des gens, des rôles différents. Cinq personnes autour de la table, on se demandait comment est-ce qu'on va faire tel projet? Il arrivait, c'est ça qu'on veut faire. En bout de ligne, là, ce qu'on a fait, là, plus rien à voir avec ce qu'on veut faire. Parce que pendant ce temps-là, tout le monde a amené des idées, on a testé des choses, on a rajouté, on a exploré des nouvelles directions, on a coupé, et le produit final est tellement beau et il est définitivement supérieur à la somme de ses parties. Puis ça, là, ce processus-là, là, c'était la magie des technologies pour moi, de travailler en équipe et de faire de si beaux produits. J'aurais peut-être voulu être un journaliste ou travailler dans le monde du média, mais en quelque sorte, je l'ai fait. Alors, c'était mon mot de la fin, Ziad, et merci beaucoup. Puis, je te souhaite le meilleur des succès dans ce que tu fais. Tu es un gars généreux, tu es un gars qui se donne, qui s'ouvre, qui participe, qui, en tout cas, j'admire beaucoup, beaucoup ta démarche. Je t'en remercie.
Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.